Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça fait un peu drôle de parler devant une salle vide, mais voilà. Alors, pour ceux qui ne m'ont pas vu depuis quelque temps, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas changé, comme disait un chanteur espagnol très connu. À part les cheveux qui ont poussé, mais ça, c'est pas de ma faute. Et puis, j'ai un peu grandi. Voilà, alors, nous allons sans transition passer à ce qui nous occupe aujourd'hui, au message. Alors, aujourd'hui, je vous propose de parcourir le psaume 57. Alors, dans le psaume 57, le premier verset, c'est lui qui a d'abord attiré mon attention et suscité en moi cette réflexion. Nous lisons dans ce premier verset « Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. » Alors, peut-être il est bon de rappeler le contexte. Donc, il s'agit de Saül et de David. Tout d'abord, en ce qui concerne Saül, le peuple hébreu avait réclamé un roi, et Dieu leur avait donné Saül. En effet, le peuple hébreu se plaignait, voilà, tous les autres peuples, ils ont un roi, et nous, on n'a pas de roi. Alors, ils ont réclamé un roi, et donc, Saül a été nommé. Saül aurait pu faire un bon roi, mais malheureusement, il va se montrer plus que décevant, car il va désobéir à plusieurs reprises à Dieu. Un exemple de désobéissance de Saül peut se trouver dans 1 Samuel au chapitre 13. Donc dans ce chapitre, nous voyons les Philistins, les ennemis du peuple hébreu, les Philistins qui sont sur le point d'attaquer les Hébreux. Les Philistins sont nombreux, puissamment armés, ils ont des chevaux, des lances, ils sont très effrayants. Mais Dieu demande à Saül d'attendre le retour de Samuel, le prophète Samuel, avant d'offrir les holocaustes, les sacrifices habituels avant la bataille. Mais Saül, pris de panique devant la menace qui se précise et la défection d'une partie de ses hommes, Saül n'attend pas le retour de Samuel et commence à offrir l'holocauste pour demander la protection de Dieu dans la bataille contre les Philistins. En faisant cela, il désobéit à Dieu et il démontre un manque flagrant de confiance en Dieu. Samuel arrive alors que l'Holocauste est en train de s'achever et il réprimande Saül. « Qu'as-tu fait ?» lui dit-il. « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. » Et il avertit Saül que cela aura des conséquences pour son règne à venir. Car Dieu s'est choisi un homme selon son cœur pour le remplacer. Cet homme, bien sûr, c'est David. Alors tout le monde connaît l'histoire du petit David, du jeune David qui, avec sa fronde, va tuer le géant Goliath. Peut-être on connaît moins la suite, mais le petit David a grandi. Et c'est maintenant un grand guerrier, un chef de guerre, qui remporte de nombreuses victoires. Sa popularité inquiète Saül, qui décide de le faire mourir. Et c'est ainsi que David va devoir se réfugier dans une caverne. Alors voilà donc la situation de David qui est obligé par les circonstances de se réfugier dans une caverne m'a rappelé la situation que nous vivons maintenant depuis de trop longues semaines. Fort heureusement, nous ne sommes pas comme David confinés dans une caverne, mais nous disposons d'une maison, d'un appartement où nous pouvons nous réfugier et nous protéger de ce mal qui sévit à l'extérieur. David a donc trouvé refuge dans une caverne. C'est en tout cas l'expression que nous utilisons habituellement. Il a trouvé refuge, j'ai trouvé un travail, j'ai trouvé une maison, j'ai trouvé une épouse. Mais en réalité, n'est-ce pas plutôt le Seigneur, notre Dieu, qui a dirigé les pas de David vers ce refuge et qui l'a mis à l'abri? N'est-ce pas aussi le Seigneur qui nous a permis d'avoir cette maison, cet appartement dans lequel nous pouvons nous sentir en sécurité aujourd'hui? Bien sûr, nous avons dû travailler, faire des sacrifices pour obtenir ce qui aujourd'hui s'avère être un refuge. Mais c'est Dieu qui a béni nos efforts. Il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'efforts et qui n'arrivent à rien parce que Dieu n'a pas béni. Et donc, c'est toujours à Dieu que revient le mérite. Dans notre société moderne, il nous semble normal de disposer d'un toit. Mais n'oublions pas que c'est avant tout une grâce que Dieu nous accorde. Lorsque je pense à ces personnes qui vivent dans la rue, à ces migrants au bord de la route, à toutes ces personnes qui fuient la guerre, les bombardements, et qui, au mieux, trouvent refuge dans un camp surpeuplé où le risque de contamination est élevé, je me dis, pourquoi le Seigneur m'épargne toutes ces souffrances? Je ne vaux certainement pas mieux que tous ces pauvres gens. Je n'ai pas de réponse à cela, tout simplement parce que c'est par grâce que le Seigneur a permis que je puisse avoir cette maison qui me permet de me mettre à l'abri. Et la grâce, par définition, n'a pas besoin de justification. Alors rappelons-nous constamment cette grâce et louons, remercions le Seigneur, notre Dieu, pour toutes ses bontés. Et prions aussi pour tous ceux qui n'ont pas d'abri, afin que Dieu leur vienne en aide. Alors venons-en maintenant à notre psaume 57. On peut remarquer, je ne sais pas si c'est dans toutes les Bibles, mais on peut remarquer qu'il y a deux pauses dans ce psaume. La première après le verset 4, la seconde après le verset 7. Ces deux pauses permettent de séparer le psaume en trois parties. Notre prière pourrait s'inspirer de la construction de ce psaume en trois parties. 1. Appel à Dieu, à sa bonté, à sa puissance. 2. Description de nos problèmes avec l'assurance que Dieu agira en notre faveur. Et enfin, dernière partie, louange et remerciement à notre Seigneur. Alors voyons la première partie, versets 1 à 4. Lisons. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Tandis que mon persécuteur se répand en outrage, Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Alors, voilà, David dit qu'il cherche un refuge. Cela peut nous sembler étrange parce que David n'a-t-il pas trouvé un refuge dans cette caverne? David ne dédaigne pas cet abri que Dieu, dans sa bonté, lui a fourni, certainement pas. Mais il a conscience que le seul vrai refuge se trouve dans le Seigneur. Et donc, il n'est pas tout à fait rassuré par cette caverne. Il veut avoir cette assurance que son Dieu est avec lui. Cette caverne, en effet, est un refuge matériel. provisoire, précaire aussi, car les hommes de Saül pourraient le trouver, et c'est pourquoi il fait appel à Dieu pour se rassurer. Le refuge que David recherche se trouve à l'ombre des ailes du Seigneur. David a aussi cette conviction que son Dieu est au-dessus de tout et de tous, et que c'est de lui que dépend toute chose. Il fait donc appel à la puissance de Dieu. Par exemple, au verset 3, il dit « Je crie au Dieu très haut ». Il sait aussi que le salut, la victoire, ne viendra pas de ses seules capacités, mais bien de l'action du Seigneur en sa faveur. Il dit au verset 4, « Il m'enverra du ciel son salut. Il enverra sa bonté et sa fidélité. » Quelle que soit votre situation et le sentiment de sécurité qu'elle pourrait vous procurer, que vous soyez à l'abri dans un château, une forteresse, ou même un bunker qui résiste à une attaque nucléaire, vous n'êtes nulle part en sûreté si Dieu n'est pas à vos côtés. Comme David, rappelons-nous que notre vrai refuge est dans le Seigneur. N'hésitons pas à faire appel à lui. Deuxième partie, versets 5 à 7. Lisons. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et la flèche et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Voilà donc cette partie centrale. Dans cette partie centrale, David va énumérer les dangers auxquels il est confronté. Ces dangers sont particulièrement effrayants. Les mots que David utilise tendent à le démontrer. En effet, il parle de lions, de dents qui sont semblables à des lances ou des flèches, de langues comme des glaives tranchants. Tout cela est vraiment flippant, comme disent les jeunes aujourd'hui. Mais David ne se laisse pas démonter. Il garde sa confiance dans la puissance de Dieu. Et au verset 6, il fait de nouveau appel au Seigneur, mais cette fois-ci, non seulement pour lui-même, mais pour que Dieu manifeste sa gloire sur toute la terre. David nous montre ici l'exemple d'un homme qui ne se laisse pas gagner par la peur, mais qui, en toutes circonstances, s'en remet à Dieu. Mais aussi, cela nous rappelle que notre but premier, notre premier vœu doit être de que Dieu puisse se glorifier. La gloire de Dieu est au centre de notre préoccupation. Alors même si Dieu connaît toutes choses d'avance, nous pouvons lui faire part de tout ce qui nous effraie, car il aime prendre un temps avec nous, et cela nous rassure, cela fait du bien de nous confier à notre Seigneur. Au verset 7, nous voyons poindre l'action du Seigneur qui va mener vers la victoire. Nous voyons que Dieu fait en sorte que les ennemis de David tombent dans le piège qu'ils avaient tendu. Le verset 7, donc, nous parle de la victoire obtenue par Dieu sur les ennemis de David. C'est donc à Dieu et à Dieu seul que revient toute la gloire. Et c'est pour cela que David va louer Dieu dans la dernière partie de ce psaume. « Troisième partie donc, versets 8 à 12, dans lequel David va louer son Dieu. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Alors, voilà, dans cette dernière partie du psaume, nous voyons un David qui est rassuré. Son cœur est affermi. Donc là, la protection de la caverne ne lui suffisait pas. Il lui fallait être sûr qu'il avait le Seigneur de son côté. David est rassuré donc. Il a remis son fardeau entre les mains du Tout-Puissant, le seul qui peut lui assurer un vrai refuge. Alors il élève sa voix pour louer Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Nous remarquons dans ces versets que David utilise le pronom « je » à 5 reprises. « Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, je réveillerai l'aurore, je te louerai, je te chanterai. » Alors il ne s'agit pas ici du « je » de celui qui veut se mettre en avant, du « moi-je ». Non, pas du tout. Il s'agit d'un « je » qui veut exprimer la volonté de David de louer et remercier son Dieu qui est intervenu en sa faveur, ainsi que son désir de voir la gloire de Dieu s'étendre sur toute la terre. C'est un jeu qui exprime la volonté. C'est un jeu volontariste. C'est un jeu qui exprime aussi l'engagement personnel. Dieu intervient. Notre part, c'est de le louer et de le remercier pour ce qu'il fait pour nous. Après avoir fait appel à notre Dieu, après lui avoir exposé nos soucis, n'attendons pas la réponse du Seigneur, mais louons-le et remercions-le à l'avance, car nous savons qu'il tiendra compte de notre prière. En effet, nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 5, les versets 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et donc, lorsque nous prions à la fin de nos prières, nous devons nous comporter comme si nous avions déjà obtenu ce que nous avons demandé. Même si ce ne sera pas exactement cela, en tout cas, une chose est certaine, c'est que Dieu tiendra compte de notre prière et répondra de la meilleure façon. Alors nous avons vu que la caverne dans laquelle David s'est réfugié est un abri provisoire précaire et que David en est bien conscient. Mais Dieu veut nous donner un refuge éternel, un refuge qui nous mettra en sécurité pour toujours. Cependant, Dieu qui est saint ne peut cohabiter avec des pécheurs comme nous. Et nous ne pouvions rien faire pour remédier à cette situation. C'est pourquoi Dieu, gracieusement, encore une fois la grâce, gracieusement, c'est-à-dire indépendamment de nos mérites, a donné Jésus son Fils pour prendre notre péché. Pour cela, Jésus a souffert et est mort sur la croix de Golgotha. Trois jours après, il est ressuscité. Il a encore vécu parmi nous pendant 40 jours. Ensuite, il est monté au ciel pour nous préparer une place dans ce refuge éternel. C'est cet événement que nous appelons l'Ascension et que nous avons fêté cette semaine. Aspirez-vous à entrer dans ce refuge dans lequel Dieu veut vous accueillir. Alors, reconnaissez votre état de pécheur. Ne vous appuyez pas sur vos propres mérites, mais repentez-vous et acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. En effet, ce n'est pas nos mérites qui peuvent nous ouvrir les portes, l'accès à ce refuge, mais c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Et donc, ne vous confiez pas dans vos mérites, mais placez votre confiance dans le sacrifice de Jésus. Acceptez-le comme votre sauveur personnel. Dans ce message, j'ai souhaité que nous nous rappelions que tout vient du Seigneur et qu'il agit en toute souveraineté et selon sa grâce. Tout ce qui, aujourd'hui, nous aide, nous protège dans la situation que nous vivons en ce moment, c'est nous, c'est lui qui nous l'a procuré. La maison, mais aussi les médecins, le personnel soignant, les protections individuelles, etc. Soyons reconnaissants, louons notre Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Mais aussi, ne dédaignons pas toutes ces choses que Dieu met à notre disposition. Utilisons-les. Bien sûr, j'entends, oui, le Seigneur est là, le Seigneur est là. Bien sûr, le Seigneur est là, il est avec nous. Mais ne pensons pas qu'il est là pour suppléer, à notre négligence. C'est notre part de faire preuve de sagesse et de, en quelque sorte, faire honneur à ce que le Seigneur nous offre gracieusement. Le Seigneur nous offre gracieusement des choses pour nous protéger, utilisons-les donc. Dans Matthieu, au chapitre 4, lorsque Satan va tenter Jésus, Satan va emmener Jésus au-dessus du temple et lui dit « Jette-toi, de toute façon, le Seigneur est là. » Il va envoyer ses anges et ils vont te rattraper. Et Jésus lui répond « Il est écrit aussi que tu ne tenteras pas ton Dieu en vain. » Si nous sommes convaincus que le Seigneur exerce toute sa bonté par grâce, eh bien, n'abusons pas de cette grâce. Faisons ce que nous sommes capables de faire aussi. Si, je prends un exemple, si vous avez des pneus lisses et que ça devient dangereux de rouler avec votre voiture, est-ce que vous dites « Oh, ben, de toute façon, le Seigneur est là » ou bien est-ce que vous prenez la peine de faire changer vos pneus ? Ou si vos freins sont défectueux, est-ce que vous dites « Oh, le Seigneur est là » ou est-ce que vous faites remplacer vos freins ? Ne pas abuser de cette grâce. Je veux terminer par deux versets. J'ai dû faire un choix parce que rien que dans les psaumes, il y a plein de versets qui parlent du secours de Dieu, du refuge que nous pouvons trouver dans le Seigneur. Alors j'en ai choisi deux. Le premier dans le psaume 73, au verset 28. « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Le second que j'ai choisi est dans le psaume 63, au verset 7. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous souvenir, nous rappeler aujourd'hui et tous les jours que tout ce que nous possédons vient de toi, Seigneur. Que ce n'est pas par nos propres mérites, mais c'est le fruit de ta grâce, de ta bonté, Seigneur. Et nous voulons te remercier, particulièrement dans la situation dans laquelle nous sommes, de nous fournir les moyens de nous protéger de ce mal qui sévit. Seigneur, merci pour le toit. Merci pour aussi que tu nous permets de vivre dans un pays où il y a une infrastructure hospitalière performante, où il y a un personnel soignant dévoué et courageux. Seigneur, merci pour toutes les protections que nous avons obtenues. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour toutes ces personnes qui sont dans la rue, à l'extérieur et qui sont dans le danger, Seigneur. Et nous te demandons de leur venir en aide. Seigneur, merci, merci parce que tu as donné Jésus pour que nous puissions avoir accès à ce refuge qui est dans ta maison. Merci pour Jésus qui a souffert et qui est mort sur la croix pour nous, pour prendre notre péché sur lui. Merci parce que, après 40 jours, il est monté vers toi, Seigneur, où nous savons qu'il nous prépare une place. Seigneur, merci pour toute cette bonté, cette grâce, cette fidélité que tu as envers nous. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.